Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus pour ce culte que nous voulons rendre à Dieu. Notre Dieu qui règne dans les cieux est digne de louange et d'adoration. Que par son Saint-Esprit, il puisse toucher notre cœur en ce moment même, afin que sa présence parmi nous soit ressentie par chacun. Alors que depuis quelques jours ou semaines, le déconfinement se met progressivement en place, nous commençons à voir le bout du tunnel. Et l'espoir grandit chaque jour de pouvoir se retrouver à nouveau, tous ensemble, dans les bâtiments de notre église, chaussée d'Alzenberg-la-Hucle. Il ne faut toutefois pas se précipiter. Il va falloir encore être patient, avant de nous réunir sans aucune restriction. Mais il est bon de voir les choses se préciser pour un retour à la normale. En attendant ce moment, que la paix, la joie, l'amour de notre Seigneur Jésus puissent nous envahir et rayonner au travers de nous, afin que nous soyons ses témoins, là où il nous a placés. Je vous invite à la prière. Loué sois-tu, Éternel, oui, loué sois-tu. Nous voulons te célébrer, toi notre Dieu, toute notre vie durant. Aide-nous à ne pas placer notre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. En effet, leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Mais nous voulons être de ceux qui trouvent leur secours en toi, qui mettent leur espoir en toi, Éternel, notre Dieu. Tu as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tu protèges éternellement la vérité. Tu fais droit aux opprimés. Tu donnes du pain aux affamés. Toi, Éternel, tu délivres les prisonniers. Tu ouvres les yeux des aveugles. Tu redresses ceux qui sont courbés. Tu aimes les justes. Éternel, tu protèges les étrangers. Tu soutiens l'orphelin et la veuve. Mais tu fais dévier la voie des méchants. Oui, Éternel, règne éternellement. Tu es Dieu, notre Dieu, de génération en génération. Loué sois-tu. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Oui, notre Dieu est grand et digne de louange. Alors je vous invite à ouvrir les portes au roi des rois, au Dieu de gloire. Oui, faisons jaillir un chant de victoire. Levons sa bannière. En face, l'ennemi tremble, car Dieu est avec nous. Oui, je vous invite à chanter ce premier cantique, Hosanna.
Hosanna, 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 Hosanna. Ouvre les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, marchons ensemble. L'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, notre prière. Tu es avec nous. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
À la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu sur les hommes voulant suivre l'enseignement dispensé par Christ. Si nous l'avons accepté dans notre cœur, Dieu nous a également accordé l'Esprit Saint. En réfléchissant à cela, j'ai pensé à cette expression française. Je ne sais pas si elle est connue en Belgique. J'ai lu quelque part qu'il s'agissait d'une expression occitane, donc du sud de la France. Toujours est-il qu'une semaine après la Pentecôte, je trouve que cette expression peut tout à fait s'appliquer à nous sur le plan spirituel. Les évangiles, selon Matthieu et Luc, rapportent les paroles de Jean le Baptiste disant au sujet de Jésus « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». L'expression à laquelle je fais référence est la suivante. Pour réussir à allumer un feu, il faut être fou ou amoureux. Si Christ nous baptise du Saint-Esprit et de feu, la question que je me pose est la suivante. Suis-je assez fou aux yeux de ce monde ou assez rempli d'amour pour mon Dieu pour que le feu du Saint-Esprit continue de brûler en moi, même si cela fait plusieurs mois ou plusieurs années que j'ai accepté Christ dans ma vie. Qu'en est-il pour vous? Êtes-vous suffisamment fou ou amoureux pour que le feu de l'Esprit reste allumé en vous pleinement, abondamment? Malheureusement, force est de constater qu'il m'arrive régulièrement d'attrister l'Esprit, d'amenuiser sa flamme. J'espère qu'il n'en est pas de même pour vous. Je vous invite à la prière. Nous faisons appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-nous. Que tes oreilles soient attentives à nos supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Nous espérons en toi, Éternel. Nous nous attendons à ta promesse. Seigneur, nous voulons compter sur toi, plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Nous voulons mettre notre espoir en toi, Éternel, car c'est auprès de toi que se trouve la bonté, c'est auprès de toi que se trouve une généreuse libération. C'est toi qui nous rachètes de toutes nos fautes. Loué sois-tu en Jésus-Christ. Amen. Poursuivons cette prière par un cantique inspiré du psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu », arc-en-ciel 432.
Connais.
En introduction de notre moment de louange, j'aimerais lire un extrait du psaume 147, les 11 premiers versets. Louez l'Éternel. Oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable, il est convenable de le louer. L'Éternel reconstruit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail et au petit corps du corbeau quand il crie. Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie. Ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Comme le dit ce psaume, l'Éternel est grand, il est puissant. Son intelligence est sans limite. L'Éternel règne puissamment sur toute la terre, et grandes et merveilleuses sont toutes ses œuvres. Personne n'est semblable à lui, personne n'est comparable à lui. Oui, l'Éternel règne. Nombreux sont les psaumes qui le disent. La crise sanitaire actuelle ne fait que confirmer cette vérité. L'Éternel règne, et il fait des choses grandes et merveilleuses. Alors chantons-le avec le cantique J'aime 414. Grande et merveilleuse.
La 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 la
Il est difficile, après un tel cantique, de rester passif. Alors je vous invite à ne pas rester auditeur pendant ce culte, mais à prendre une part active et à faire monter vers Dieu votre prière d'adoration et de louange. Prions. Éternel, tu règnes, tu es majestueux, tu es saint de force, tu es sur ton trône pour la durée des temps. Dieu, tu es puissant dans les lieux célestes, tes témoignages sont véritables, la sainteté convient à ta maison pour la durée des temps. Puissance et force sont dans ton temple, devant ta face tout est splendeur. Nous voulons te rendre gloire pour la durée des temps. Oui, pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, éternel. Tu as fait les cieux et nous voulons te louer. Oui, loué sois-tu en Jésus-Christ. Amen. Ce Dieu qui règne nous ouvre les bras. Par sa grâce, il nous accueille. En Jésus-Christ, ma dette est payée. Il m'a libéré et maintenant je suis à lui. Je suis son enfant. Ce privilège immense, je vous invite à le chanter dans le cantique suivant. En toi, je sais qui je suis.
Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son droit. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis qui je suis, tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis, tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis.
Arrivé au moment réservé pour les enfants, et je vais laisser la place à David, bien conscient qu'il implique aussi d'autres personnes de l'ADE. Alors merci à David et aux autres de l'ADE pour ce moment.
Bonjour les enfants. L'histoire que j'aimerais vous partager aujourd'hui parle du découragement. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce que ce mot signifie? En prenant un dictionnaire, je suis tombé sur cette définition. Le découragement est une perte de courage, d'énergie, un abattement, une démoralisation. Le découragement est donc ce qui est à l'opposé du courage. Quand on est courageux, on se dit « Allez, ça va aller, Dieu est avec moi, et quoi qu'il arrive, il ne m'abandonnera pas, je ne vais pas baisser les bras. » Quand on est découragé, c'est tout le contraire. Tout nous demande des efforts. On manque d'énergie. On se dit qu'on n'y arrivera pas. On se trouve nul, sans valeur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir ça? Comme je vous le disais, ma petite histoire va parler du découragement. Cette histoire, vous ne la trouverez pas dans votre Bible. C'est une histoire qui a été imaginée. Mon histoire commence ainsi. Comme chaque année, et seulement pour quelques jours, le diable organise une grande exposition, une sorte de musée. Et à cette occasion, il expose tous les outils dont il se sert pour faire le mal sur Terre, chez les êtres humains. Comme ça, il les présente à ses collaborateurs et leur explique comment ils fonctionnent. Parmi tous les outils que le diable expose, il y a la colère, la vengeance, la jalousie, la haine, le dégoût, la moquerie, la méchanceté, les insultes, le mensonge, la violence, et encore plein d'autres choses. À l'ouverture de son exposition, ses collaborateurs commencent à circuler librement et à écouter les explications et les anecdotes fournies par le diable sur tous ses outils. « Ah, ça, c'est la jalousie, » dit-il. « Je l'ai mise dans le cœur de nombreuses personnes cette année. Je suis d'ailleurs fier de vous annoncer que j'ai créé d'innombrables disputes dans les écoles grâce à cet outil. J'ai cassé avec lui beaucoup d'amitiés. Ah, ça c'est la colère. Grâce à elle, j'en ai poussé plus d'un à se battre dans la cour de récré. C'était d'ailleurs bien amusant de voir tous ces enfants punis contre le mur avec des blessures tout plein le visage. Ah, 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 le mensonge, qu'est-ce que j'aime ça. Grâce à lui, je fais perdre la confiance des uns et des autres dans leurs plus proches amis. C'est d'ailleurs grâce à cet outil que j'ai éloigné les premiers êtres humains de Dieu. Devant toutes ces explications, les collaborateurs du diable étaient impressionnés et prenaient plein de notes et faisaient aussi plein de selfies. Alors que la visite arrivait à sa fin, le diable dit à ses collaborateurs « Avant que la visite ne s'achève, il me reste encore un outil à vous montrer. » Le diable demande alors à tout le monde de le suivre et il amène le groupe devant un grand rideau. Le groupe attend avec impatience que le rideau s'ouvre. Les collaborateurs se disent que ce qui se cache là derrière est quelque chose de fabuleux. Après avoir laissé passer quelques minutes, le diable tire sur une corde et le rideau tombe. Les collaborateurs se regardent, tous étonnés, en voyant ce qui se cachait derrière le rideau. Ils s'attendaient à voir quelque chose de grand, de brillant, à l'image des autres outils qu'ils avaient vus jusque-là. Mais non, l'outil qui se cachait derrière le rideau était quelque chose de petit, qui paraissait inoffensif et qui était tout usé. Comme il n'y avait pas de nom devant l'outil, quelqu'un demanda au diable ce que c'était. Et celui-ci répondit « Eh bien, voyez-vous, cet outil, c'est le découragement. Il n'a pas l'air terrible vu comme ça. Et pourtant, s'il est si usé, c'est parce que je m'en sers tout le temps sur Terre et qu'il fonctionne super bien sur les êtres humains. C'est d'ailleurs l'un de mes outils préférés. Avec lui, je rentre facilement dans le cœur des hommes pour les pousser au désespoir, ce qui me permet ensuite de les manipuler comme je veux. En fait, c'est une sorte de clé passe-partout. Et il est si discret que personne ne s'imagine que c'est à moi qu'il appartient. » Alors, les enfants, mon histoire se termine ici. Mais elle ne servirait pas à grand-chose si je n'apportais pas une petite conclusion. J'aimerais donc vous dire que le découragement est quelque chose qui nous frappe tous par moments, petits et grands. On peut être découragé pour un tas de raisons. On peut être découragé parce qu'on a l'impression qu'on est nul, qu'on ne sait rien faire, qu'on ne sert à rien, qu'on ne nous aime pas, ou bien encore parce qu'on est face à quelque chose de très compliqué et qu'on se sent très seul. Mais il est important qu'on ne reste pas prisonnier de ce découragement. C'est pour cela que j'aimerais vous donner deux conseils pour lutter contre lui. Premièrement, lorsqu'on est découragé, il faut se rappeler de toutes les promesses que Dieu nous a laissées dans la Bible pour s'y attacher fermement. Ces promesses sont des outils que Dieu nous donne pour que nous puissions avoir du courage dans la vie. À titre d'exemple, en voici quelques-unes tirées du Nouveau Testament. Il y a Matthieu 28, 20, où Jésus dit « Sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ou encore Matthieu 5, où Jésus dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Et en voici encore une dernière, tirée de 1 Pierre 5, 7. « Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. » Alors, je vous ai dit que je vous donnerai deux conseils pour faire face au découragement. Voici le deuxième. Soyez vous-même une source d'encouragement pour les autres. Si vous voyez que quelqu'un va mal, qu'il est abattu, allez vers lui, parlez avec lui, encouragez-le, priez pour lui. Dites-lui à quel point il est super. Et c'est pour cela que j'aimerais terminer ce message en donnant un défi à chacun. Pendant toute la semaine et chaque jour, soyez une source d'encouragement pour au moins une personne. Je vous invite à présent à la prière. Et c'est Léa qui priera pour nous ce matin.
Mes enfants, qu'est-ce qu'on fait quand on veut prier?
On voit les mains, on baisse la tête, on ferme les yeux, on parle à Dieu.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la vie que tu as donnée à chacun de nous. Merci pour la qualité des relations que nous avons avec nos proches, nos frères et sœurs de l'Église Duc et nos amis à l'école du dimanche et ailleurs. Nous te remercions parce que nous pourrons bientôt nous revoir et profiter les uns des autres. Seigneur, ce temps de confinement n'a pas été facile pour plusieurs. Nous avons souvent baissé les bras pour différentes raisons. Nous nous sommes souvent laissés emporter par le découragement. Seigneur, nous aimerions te demander pardon et te dire merci parce que tu ne nous as pas laissés tomber. Tu nous as pris par la main et tu nous rappelles tes promesses. Merci d'être toujours avec nous. Merci de porter nos soucis et nos fardeaux. Merci pour la paix que tu nous donnes. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour. Merci pour chacun des enfants de notre communauté. C'est en ton nom tout-puissant que nous t'avons prié. Amen.
Amen.
Nous allons à présent passer à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous invite tout d'abord à la prière. Père, tu es élevé au plus haut des cieux et tu rayonnes de ta gloire. Seigneur, répands ton amour, ta force. Ouvre les yeux de nos cœurs, nous désirons te voir. Nous désirons accueillir cet amour et cette force que tu veux nous donner. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous allons lire à présent trois passages, respectivement dans les livres de Joël, dans l'épître aux Romains et dans l'épître aux Corinthiens. Écoutons ces lectures.
Le premier passage se trouve dans le livre de Joël au chapitre 3, les deux premiers versets. Après cela, je répandrai mon souffle sur tous. Vos filles et vos filles deviendront prophètes. Vos anciens auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon souffle.
Nous lisons le deuxième passage dans l'épître aux Romains, chapitre 12, les versets 3 à 10. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir des prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, tout comme il y a une multitude de parties dans notre corps qui est un seul, et que toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction, ainsi, nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ, et nous faisons tous partie les uns des autres. Et nous avons des dons différents de la grâce, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est de parler en prophète, que ce soit dans la logique de la foi. Si c'est de servir, qu'on se consacre au service. Que celui qui enseigne se consacre à l'enseignement. Celui qui encourage à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui dirige avec empressement. Celui qui exerce la compassion avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres.
Enfin, nous lisons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 1 à 13. Pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez des non-juifs comme les autres, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit « Anathème à Jésus ». Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur », sinon par l'Esprit Saint. Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité des services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, de la foi, par le même Esprit. À un autre, des dons de guérison, par l'unique Esprit. À un autre, la capacité d'opérer de miracles. À un autre, celle de parler en prophète. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit.
Je vous invite à faire monter votre voix vers le Seigneur, afin qu'il nous parle. Il s'agit d'une prière chantée que l'on trouve dans Arc-en-Ciel, au numéro 207. Parle-moi.
Je vous propose ce matin de poursuivre dans la dynamique de la Pentecôte notre méditation sur le Saint-Esprit et les dons spirituels. Mais auparavant, écoutons ce conte qui nous vient de l'Inde. Un jour, toutes les couleurs du monde entier se mirent à se disputer. Chacune prétendait qu'elle était la plus belle, la plus importante, la plus utile, la préférée. Elle se vantait à haute voix, chacune étant bien convaincue d'être la meilleure. Leur querelle enfla de plus en plus. Soudain, un éclair d'une lumière aveuglante apparut dans le ciel, accompagné de roulements de tonnerre. La pluie commença à tomber à torrents, sans discontinuer. Effrayées, toutes les couleurs se tapirent et se rapprochèrent pour chercher un abri les unes près des autres. La pluie prit la parole. « Stupide créature qui vous battez entre vous, chacune essayant de dominer l'autre, ne savez-vous pas que c'est Dieu qui vous a fait toutes, chacune dans un but particulier, unique et différente ? Il aime chacune d'entre vous, il a besoin de vous toutes. Joignez vos mains et venez à moi. Il va vous étendre à travers le ciel en un magnifique arc-en-ciel pour vous montrer qu'il vous aime toutes, que vous pouvez vivre ensemble en paix. Comme une promesse qu'il est avec vous et comme signe d'espérance pour demain, ainsi chaque fois que Dieu envoie une pluie pour laver le monde, il place l'arc-en-ciel dans le ciel. Et quand nous l'apercevons, nous devrions nous rappeler qu'il veut que nous sachions nous aussi nous apprécier les uns les autres et le louer de notre merveilleuse complémentarité. Frères et sœurs, ce conte dit la réalité de la diversité voulue par le Créateur. Il dit aussi de la stupidité de querelle et de la nécessaire complémentarité dans l'unité. Alors, quel lien, me direz-vous, avec le Saint-Esprit et les dons spirituels? Je voudrais tout simplement vous demander si vous n'êtes pas au courant des querelles, des incompréhensions et parfois même des anathèmes que se lancent parfois les chrétiens sur les dons spirituels. Les uns ne jurent que par eux, d'autres ne veulent même pas en entendre parler, sans oublier tous ceux qui occupent une position intermédiaire. N'est-il pas temps d'explorer les passages qui en parlent à tête reposée? C'est ce que je vous propose ce matin, en reconnaissant que le sujet ne peut être épuisé en un instant. Ceci reste malgré tout une amorce vers la découverte d'une des œuvres du Saint-Esprit. La question qui va donc nous préoccuper et à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est: quelles sont les informations basiques sur les dons spirituels que tout chrétien devrait savoir? Nous allons tâcher de répondre en deux temps, à savoir d'abord des généralités sur la présentation ou les aspects du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et deuxièmement, nous allons sur les quatre textes qui donnent la liste des dons spirituels. Nous allons croiser deux d'entre elles, 1 Corinthiens 12 et Romains 12. Pour reprendre le vocabulaire de notre conte, pour un lecteur attentif des Écritures, il s'aperçoit qu'il n'y a pas une seule couleur sur le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Les différents témoins du Nouveau Testament, notamment Luc, Jean et Paul, présentent chacun une couleur particulière du Saint-Esprit. Prenons l'exemple de Luc. Luc, dans le livre des Actes, parle de l'action du Saint-Esprit sous forme d'interventions soudaines, brusques, des signes extérieurs et visibles, joie débordante, prophétie, guérison du corps et de l'âme, le parler en langue, conversion foudroyante, attente fervente de la fin des temps. La couleur de l'Esprit que Luc présente est plus tournée vers la mission, vers l'expansion de l'Évangile dans le monde. Dans l'histoire de l'Église, en caricaturant à peine, les pentecôtistes se basent essentiellement sur cette manière de présenter le Saint-Esprit par Luc. Le deuxième témoin, c'est Jean. Jean n'est pas du tout indifférent au rôle que joue le Saint-Esprit dans la mission. Il suffit tout simplement de nous rappeler, dans l'évangile de Jean, le ressuscité qui souffle sur ses disciples et qui dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Néanmoins, son accent, à lui Jean, est davantage placé sur l'Esprit-Saint qui habite dans le chrétien pour y déployer la puissance de sanctification et pour produire du fruit, pensez à Jean 15. Le Saint-Esprit est là aussi pour enseigner le chrétien, le conduire dans la vérité, convaincre de péché et rappeler tout ce que Jésus a enseigné. Le Saint-Esprit, selon Jean, nous révèle le Fils et le Père. Il nous fait pénétrer dans le mystère intime de la vie de Dieu. L'accent ou la couleur est davantage mystique, dans la mesure où le Saint-Esprit ouvre à développer, œuvre plutôt à développer, une profonde communion entre Dieu et le chrétien. Dans l'histoire de l'Église, les orthodoxes et certains catholiques se reconnaissent plus facilement dans cet accent mis sur le Saint-Esprit par Jean. Le troisième témoin, c'est Paul, l'apôtre. Lui fait la synthèse entre les aspects mystiques et missionnaires. Alors pour l'exprimer de la manière la plus simple, disons ceci. Selon Paul, l'Esprit-Saint nous habite et de ce fait commence avec sa puissance un travail de sanctification en nous afin de nous permettre de vivre la vie du Christ. Dans le même temps, il nous introduit dans le corps du Christ qui est l'Église, où en union avec les autres membres de ce corps, nous sommes appelés à accomplir un service au profit du reste du corps, mais aussi ce service est tourné vers l'extérieur. Et pour cela, chacun reçoit au moins un don, c'est-à-dire une capacité spirituelle pour rendre service, pour édifier le corps et pour faire avancer le règne de Dieu. On comprend donc que les dons sont donnés pour être mis au service de tout le corps. Ils ne constituent aucunement un objet d'orgueil ou de chantage. Les églises issues de la Réforme, c'est-à-dire les églises protestantes en général, mais aussi certains théologiens catholiques, se reconnaissent plus dans le témoignage de Paul que des autres témoins. Je caricature à peine. D'après ces différents témoignages du Nouveau Testament sur le Saint-Esprit, une grande dispute a éclaté entre les différentes confessions chrétiennes, ou même éclate dans une même communauté, chacun prétendant qu'il est le meilleur, le plus fidèle. Alors comme entre elles se disputaient les couleurs du conte qui introduisait notre prédication. Comme cela est stupide et non productif, car ne fait pas avancer le règne de Dieu pour lequel les dons sont donnés. À mon humble avis, la vraie question à nous poser est celle de savoir s'il faut être exclusif, c'est-à-dire exclure les autres accents pour ne garder qu'une seule couleur. Ou plutôt, il faut les maintenir en tension et accepter que le même esprit agit dans cette grande diversité d'opérations et de dons dans un même but. Admettre qu'ils sont divers et complémentaires pour atteindre le même but. Les dons spirituels ne s'originent-ils pas dans l'unique Saint-Esprit qui est souverain et qui les donne à qui il veut, comme il veut, selon la grâce qui a été accordée à chacun et destinée à servir pour la croissance et l'édification de toute l'Église et de l'avancement du règne de Dieu? L'exercice des dons ne saurait se faire en aucun cas au détriment de l'amour. Souvenez-vous, dans l'Épître aux Corinthiens, entre les deux chapitres qui parlent des dons spirituels, notamment le chapitre 12 et le chapitre 14, il y a là tout au milieu le chapitre 13 qui est un véritable hymne à l'amour. Car l'amour est le critère fondamental pour juger de l'authenticité de ces dons. Et les dons ne peuvent pas s'exercer dans le désordre ni dans les débordements émotifs dans l'assemblée. Alors venons-en maintenant aux deux listes des dons, parce que sur les quatre que nous donne le Nouveau Testament, nous en avons retenu deux pour ce matin. Il s'agit de la première aux Corinthiens au chapitre 12, et puis de l'Épître aux Romains au chapitre 12 aussi. Nous allons essayer de voir s'il y a des convergences, mais aussi relever des particularités de chacune de ces deux listes. Il apparaît clairement à la lecture de ces deux listes que les dons spirituels, ne peuvent pas être considérés hors de leur contexte, à savoir l'Église. Ils s'exercent dans l'Église qui est définie comme un corps vivant qui a son unité et qui tient ensemble les diversités dans le but d'édifier, de développer le corps qui est l'Église, mais aussi de faire avancer le règne de Dieu. Sous aucun prétexte, il ne faut ni rompre l'unité, ni mépriser la diversité. Dans ces deux textes, et particulièrement celui de Romains, on le trouve exprimé aussi différemment dans celui de 1 Corinthiens, la modestie est un ingrédient puissant qui concourt à préserver l'unité dans la mesure où chacun reste dans les limites qui lui sont imparties par le dispensateur des dons et dans la reconnaissance de la diversité et le respect mutuel. Un autre point commun entre les deux listes est l'accent sur le fait que les dons sont l'œuvre de la grâce de Dieu en l'homme. Personne ne les mérite. Le Saint-Esprit est le Seigneur qui les dispense souverainement à chacun comme il veut, selon la grâce impartie à chacun. C'est lui, le Saint-Esprit, qui détermine le but pour lequel il donne ses dons, à savoir édifier le corps du Christ, le faire grandir et faire avancer le règne de Dieu sur la terre jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Mes frères et sœurs, je n'hésite pas à répéter, car j'estime que cela est important, les dons spirituels ne peuvent être isolés de leur contexte. Ici, l'apôtre ne manque pas de souligner leur origine, leur but, leur diversité, aussi bien que leur unité. Ils sont un don de la grâce de Dieu. Pas donc besoin de s'enorgueillir. Ils sont appropriés à chacun. Pas donc besoin de jalouser les dons des autres, ni en vouloir à ceux qui ont reçu un autre don que nous envions peut-être. Ce sont des capacités spirituelles destinées à servir pour la croissance et l'édification de toute l'Église et pour l'avancement du règne de Dieu. Ce n'est donc pas notre propriété pour que nous en fassions ce que nous voulons. Il convient, dans tous les cas, d'avoir donc un esprit d'humilité et de service. Il y a dans la liste de 1 Corinthiens 12 des dons extraordinaires, spectaculaires, qui bien souvent sont extatiques, c'est-à-dire qui permettent de sortir du monde sensible et qui introduisent parfois dans un autre univers. On est là comme en extase, je pense, au parler en langue, à l'interprétation des langues ou encore à certaines formes de prophétie où la spontanéité, la soudaine intervention de l'esprit surprend. Dans la liste de Romains, aucun don dans ce sens, aucun don spectaculaire. Il semble, tous ces dons dans la liste de l'épître aux Romains, ils semblent ordinaires et n'en demeurent pas moins spirituels. Ainsi, par exemple, l'enseignement, la libéralité, la présidence, la diaconie, etc., ce sont des dons qui semblent ordinaires et pourtant, ils sont dans la liste des dons spirituels. En dépit de cela, notons que les deux églises, celle de Rome et celle de Corinthe, sont des églises charismatiques dans la mesure où chacune a reçu les dons de l'Esprit Saint, selon la grâce qui est impartie à chacune d'elles. Ce n'est donc pas exact de dire que telle église n'est pas charismatique, à moins que les chrétiens eux-mêmes en soient ignorants, ce qui peut arriver. Remarquez que le chapitre 12 de 1 Corinthiens commence par, je cite, « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet des expériences spirituelles. » L'ignorance conduit à la pauvreté spirituelle. Ici, je pense à cet exemple que j'ai peut-être déjà donné et que vous avez déjà entendu. Je pense à ce voyageur qui fait la traversée de l'Atlantique, de l'Amérique vers l'Europe en bateau, il y a déjà bien longtemps, et qui pendant ce voyage a mangé des biscuits qu'il avait dans son sac. Et il l'a fait pendant 2 jours. Alors qu'il voyait d'autres passagers manger à leur faim, et ce jour-là, il n'hésita pas à accrocher un autre voyageur en lui promettant de travailler pour lui s'il consentait à partager son plat avec lui durant la traversée. Et l'autre voyageur, surpris, lui demanda s'il n'avait pas payé son billet. « Mais bien sûr que je l'ai payé, » répondit celui-ci. Alors il l'informe, « Mais tout est compris dans le billet, la nourriture pendant tout le trajet. » Oh, l'ignorance, vous voyez, frères et sœurs, comme elle peut nous rendre pauvres. Nous pouvons passer à côté de nos droits. Ne soyons pas dans la pauvreté spirituelle à cause de notre ignorance. Voici la parole de Dieu qui nous vient en aide et qui nous éclaire. Qui suis-je pour refuser les dons que le Saint-Esprit estime nécessaires pour édifier le corps du Christ et faire avancer le règne de Dieu? Personne ne peut se départir de ce que Dieu estime nécessaire, sauf à être fou, à être insensé. Maintenant, je vous propose juste un moment de faire un coup de projecteur sur quelques dons seulement, car dans le cadre d'une prédication, tout ne peut pas être abordé. C'est à prolonger dans une étude biblique, par exemple. Je relève quelques dons et je vais essayer de les expliquer. Il y a d'abord dans ces deux listes les dons qu'on peut appeler les dons de la parole. Il y fait mention d'une parole de sagesse. C'est un don spirituel que donne le Saint-Esprit et qui donne la capacité d'émettre avec clarté et profondeur une vérité divine qui s'applique immédiatement à la pratique de la vie chrétienne et sort du pétrin, frère ou sœur ou même une communauté. Elle est aussi, cette parole de sagesse, cette capacité de parler avec clarté et profondeur des mystères de Dieu. L'apôtre Paul écrivait « C'est bien une sagesse, je le cite donc, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes. Sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des princes de ce monde, vouée à la destruction. Nous enseignons la sagesse de Dieu mystérieuse et demeurée cachée que Dieu, avant les siècles, avait d'avance destinée à notre gloire. » Fin de citation. Il est aussi question d'une parole de connaissance. C'est un don qui est donné et qui permet de pénétrer bien avant dans la doctrine révélée, de la saisir dans son ensemble et dans ses détails et de l'exposer pour l'instruction des autres. Ce don peut être aussi de connaître ce qui est caché et qui peut constituer un obstacle à l'avancement du règne de Dieu, de le dénoncer afin que le règne de Dieu poursuive son cours. Par moments, cette parole de connaissance s'apparente au don de discernement des esprits. Pensons à Paul et à Simon le magicien, par exemple. Ce magicien est en train de crier après Paul en disant « Voici les serviteurs de Dieu ». Rien d'inconvenant dans ce qu'il disait. Mais il fallait les capacités spirituelles que Paul avait pour démasquer la supercherie de Simon, qu'il était au service du diable, alors que les paroles qu'il prononçait étaient innocentes. Il est aussi question du don de la foi. Eh bien, le don de la foi, ici, il ne s'agit pas plutôt de la foi qui sauve que possède tout chrétien. Il est plutôt ici question de la foi audacieuse, héroïque, qui par moments se saisit de la toute-puissance de Dieu et qui accomplit des miracles à transporter des montagnes. Et un exemple? Exemple de George Müller. George Müller, c'est un Allemand qui a vécu à Bristol, en Angleterre, au XIXe siècle. Mais c'était vraiment un homme de foi. Dans la période de la grande crise financière, il était pasteur en Angleterre, à Bristol, ses paroissiens travaillaient 12 à 16 heures par jour. et lui ont avoué un jour n'avoir pas de temps pour leur vie spirituelle. Comment inverser la phrase « vivre pour travailler » et non « travailler pour vivre » ? Comme ces discours ne réussissaient pas à changer le cours des choses, ils décident de s'occuper des orphelins livrés à eux-mêmes dans les rues. Mais ils n'avaient pas d'argent. Et puis, c'est la grande crise financière en Angleterre. Et il se dit, ce qui est un problème pour nous, les humains, n'est pas du tout un problème pour Dieu. Alors il se mit à prier pour que le Seigneur lui envoie des fonds nécessaires pour prendre soin des orphelins. Il s'était fixé comme règle de ne jamais demander de l'argent aux chrétiens, de ne même pas faire d'appel d'argent, seulement de prier et de demander à Dieu et à Dieu seul. Il va commencer à recevoir des sommes nécessaires pour prendre soin des orphelins durant toute sa vie. Il a, par la même occasion, supporté 170 missionnaires, il a créé des écoles. Mais voici qu'un matin, les enfants sont devant leur bol vide. Müller pria en remerciant Dieu pour ce qu'il voudrait bien leur donner à manger. À peine venait-il de terminer sa prière qu'il recevra non seulement du pain frais, mais du lait aussi. Et cela a été caractéristique dans la vie de cet homme. C'est un don de foi qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Et parfois, quand on entend ce genre de témoignage, on est tenté de faire la même chose. Attention à ne pas imiter, à moins que vous ayez vous-même reçu le don de la foi, comme Müller. Un autre don que je relève, c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est cette capacité que donne le Saint-Esprit de pénétrer la réalité et de distinguer, comme par instinct spirituel, ce qui est vrai de ce qui est faux, de ce qui se dit. Souvenez-vous, par exemple, dans Actes 5, l'histoire de Ananias et Saphira. Ils ont fait un peu comme tout le monde, mais Pierre, qui avait le discernement des esprits, a remarqué qu'ils avaient trompé le Saint-Esprit, et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Oh, mentionnons aussi les dons de guérison qui sont donnés, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, etc. Il y a donc, dans ces deux listes de dons, il y a des dons extraordinaires, comme il y a aussi des dons tout ordinaires, comme celui de présider, comme celui de libéralité, comme le don de service. Ce sont des dons qui ne sont pas spectaculaires, et pourtant, ce sont des dons réels, donnés par le Saint-Esprit pour l'accomplissement du ministère. Mes frères et sœurs, en Christ, je voulais ce matin explorer avec vous une autre dimension de l'œuvre du Saint-Esprit en faveur du chrétien et de l'Église. Oui, soyons reconnaissants au Seigneur qui a fait habiter le Saint-Esprit en nous, lequel Saint-Esprit vient à notre secours dans le service qu'il attend de chacun de nous. Je dis bien de chacun de nous. Il le fait en nous donnant des dons spirituels. Il les a estimés nécessaires pour nous. Si vous êtes chrétien, vous avez reçu au moins un don qu'il convient de mettre au service de la communauté, et cela quel que soit votre âge. Vous avez retenu aussi la diversité des couleurs sur le Saint-Esprit, les manifestations diverses de l'Esprit chez Luc, Jean et Paul. Témoins dans la révélation, ne soyez pas complexés ni déprimés parce que vous n'êtes pas comme tel chrétien ou tel autre, ni que les autres disent que votre communauté n'est pas charismatique. Elle est différente des autres, que chacun cherche à vivre sous la conduite de l'Esprit, sans mépriser ou ignorer les dons divers et variés qu'il dispense aux siens. Le don reçu n'est pas à thésauriser, c'est-à-dire à enfouir dans la terre, mais à mettre au service des autres dans la communauté où le Seigneur de l'Église nous a placés présentement. Savoir que les dons spirituels tirent leur origine en Dieu lui-même et qu'il y a une diversité de dons et savoir pourquoi ils sont dispensés demeure un pas important. Comment œuvrer dans l'Église si on ne connaît pas son don? Et je pense qu'il y a une responsabilité pour les anciens et les pasteurs des communautés à discerner et à encourager chacun à exceller dans son don au service de la communauté chrétienne. J'ajouterai néanmoins, soyez proactifs, proposez vos services. C'est de la sorte que les autres, que les responsables peuvent discerner vos dons et que vous pouvez de la sorte être une bénédiction pour toute la communauté. Pensez à notre compte sur l'arc-en-ciel. Gardons-nous des querelles stupides en nous considérant comme les meilleurs et les seuls. Je sais que j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Nous avons besoin les uns des autres, car nous sommes complémentaires. Puisse le Seigneur nous venir en aide selon les besoins de chacun et de notre communauté. Amen.
vous invite à confesser votre foi avec le cantique suivant « Je crois en toi ». Ce cantique se trouve dans Arc-en-Ciel, au numéro 566. Avant de clôturer ce culte, je vous invite à la prière. Oui, Père, à la fin de ce moment, passé ensemble virtuellement à écouter ta parole, à te louer, nous voulons encore une fois tourner nos regards vers toi, te présenter ce monde qui nous entoure et qui a bien vacillé ces dernières semaines. Par là, nous voulons reconnaître ta toute-puissance, ta majesté. Seigneur, aide-nous à mettre pleinement notre confiance en toi, et non pas dans les hommes. Seigneur, que tu donnes à ces hommes de reconnaître ta toute-puissance, et en particulier à ceux qui nous dirigent, donne-leur la sagesse de prendre les décisions qu'il convient. Seigneur, nous attendons avec impatience ce moment où nous pourrons nous retrouver tous ensemble. Et en attendant, dirige-nous, conduis-nous. Seigneur, nous voulons également penser à tous ceux qui ont repris le chemin du travail, à tous ceux qui n'ont jamais arrêté et qui nous ont permis de continuer à vivre plus ou moins normalement. Loué sois-tu pour le fait que nous ayons pu traverser ces moments. Seigneur, nous voulons te prier pour ceux des nôtres qui sont âgés ou qui sont malades. Seigneur, que tu les relèves, que tu les renouvelles. Nous voulons penser à ceux qui sont persécutés, et en particulier en ces moments de crise sanitaire. Certains dirigeants, certains peuples agressent les autres parce qu'ils croient en toi. Alors Seigneur, que tu protèges tes enfants là aussi, là où ils sont. Seigneur, nous voulons garder les regards fixés sur toi pendant cette semaine et nous réjouir parce que tu règnes, parce que c'est toi qui es aux commandes. Et le monde n'y peut rien. Loué sois-tu en Jésus-Christ. Amen. Je vais laisser à présent la place au pasteur pour l'exhortation et la bénédiction, après quoi nous chanterons un dernier cantique.
Frères et sœurs, je vous invite maintenant à recevoir cette exhortation, après aussi la bénédiction qui va suivre. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Et maintenant, la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen.
plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. C'est le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, et sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.